Je ne sais pas dans quelles conditions de cœur vous êtes aujourd'hui, mais ce chant s'intitule « Mon cœur n'est qu'un chant d'espérance ». En fait, on peut traverser des difficultés, des problèmes, des épreuves, mais lorsque Jésus habite dans notre cœur, on sait que ça ne va pas durer pour l'éternité. On a un avenir qui est heureux et qui va complètement nous transformer. Parce que la vie éternelle, ce n'est même pas imaginable. En tant qu'être humain, on a beaucoup de mal à imaginer l'éternité. Mais quand on a cette espérance dans son cœur, eh bien, on peut vivre aujourd'hui, même quand les choses ne vont pas forcément aussi bien qu'on aimerait qu'elles aillent, avec un chant d'espérance dans le cœur. Mon cœur n'est qu'un chant d'espérance. Personne à lui l'aura fui, et toutes mes craintes ont fui. Mon Dieu, même au sein des souffrances, me fait tressaillir d'espérance. Au loin, ma foi déjà perçoit le jour qui sera. Dieu se revêt de silence, je crois contre toute espérance, son grand amour vivant toujours ne peut à mon cri rester sourd. Je sais qu'il n'est nulle puissance qui puisse bannir. Je veux proclamer l'espérance qui donne à ma foi sa vaillance. Je veux aimer, je veux semer, sachant que Dieu seul fait germer en Dieu l'espérance vivante, limpide, féconde et puissante.
Il y a quelques années en arrière, j'étais invité à Strasbourg pour une série de conférences et au lieu que je choisisse les thèmes, les gens dans la rue les ont choisis. Ils sont allés faire un sondage dans la rue, ils ont sondé des centaines de personnes pour leur poser cette question. Si vous pouviez rencontrer Dieu, quelle est la question que vous aimeriez lui poser ? Alors, il y a eu plusieurs réponses. Et parmi, par exemple, il y avait « Pourquoi, s'il y a un Dieu, enfin, si je peux le rencontrer, je dis « Pourquoi vous avez permis le mal dans le monde ? Pourquoi la souffrance ? Puisque vous êtes tout puissant. » Mais certains ont posé cette question « Pourquoi y a-t-il un paradis et un enfer ?» Parce que quand on parle de Dieu, tout le monde est au courant, quand on s'agit de Dieu, on parle toujours de deux endroits après la mort, le paradis et l'enfer. Il est vrai que dans l'Église catholique, on fait part aussi de purgatoire, et le purgatoire n'est pas mentionné une seule fois dans les 66 livres qui composent la Bible, que nous avons depuis une partie depuis 3500 ans. Moïse a commencé la rédaction du livre. Et le livre s'est achevé il y a presque 2000 ans, c'est-à-dire vers la fin du 1er siècle, avec l'Apocalypse de Jean. Donc, pendant 16 siècles, 66 livres ont été composés, écrits, sous l'inspiration du Saint-Esprit, par une quarantaine d'auteurs différents. Dans aucun de ces livres, on ne trouve trace du purgatoire. Seulement, à la Réforme, puisque les réformateurs, Martin Luther, etc., ils ont critiqué l'Église catholique romaine pour la vente d'indulgences, pour écourter leur temps au purgatoire, arguant que le purgatoire n'existe pas, l'Église catholique romaine, pour justifier l'existence du purgatoire, pour essayer de prouver son enseignement, a ajouté à ce moment-là, il y a 5 siècles, a ajouté 13 livres à l'Ancien Testament. C'est quand même curieux, parce que la liste des livres de l'Ancien Testament était arrêtée 300 ou 400 ans avant Jésus-Christ. Donc presque 20 siècles après, on ajoute 13 livres. Et dans ces livres-là, on trouve des passages qui pourraient faire croire qu'il y a une sorte de purgatoire. Mais dans les livres inspirés de Dieu et reconnus depuis toujours comme la parole de Dieu, il n'y a nulle trace. Ce qui nous ramène donc à notre question, il n'y a que 2 endroits, le paradis et l'enfer. Alors, la question est intéressante parce que ce n'était pas la question « y a-t-il un paradis ou l'enfer ?» La personne était convaincue que si elle rencontrait Dieu, il y a un paradis et un enfer. La question donc, c'est pourquoi il y a un paradis et un enfer ? S'il y a un paradis, pourquoi y a-t-il un enfer ? Si Dieu est un Dieu d'amour, pourquoi ne voudrait-il pas accueillir tous les humains auprès de lui ? Et la question est valable. Elle mérite d'être posée, elle mérite surtout une réponse. Et puis, ce n'est pas une réponse que moi, je pourrais vous donner de mes idées. Ça doit venir de Dieu. Dieu a répondu à cette question. Et donc, quand on parle de pourquoi le ciel, pourquoi y aurait-il un paradis, il faut d'abord, qu'est-ce que le ciel ? Souvent, quand nous parlons avec les gens, est-ce que vous êtes sûr, après votre mort, de partir au ciel ? Alors, les gens vous regardent en drôle d'air. Au ciel, j'ai pas moyen de payer un billet d'avion, si c'est ce que vous voulez dire. Aller au ciel, c'est quoi ? Mais bien, il faut bien sûr définir ce que signifie le mot ciel. Le mot ciel a 3 significations dans la Bible, et tout le monde le comprendra, puisqu'il y a un premier ciel qui est l'atmosphère. Quand on dit le ciel est bleu, on parle de l'atmosphère. C'est l'oxygène et le mélange gazeux qui composent l'air qui fait que ça nous paraît bleu. C'est le soleil qui reflète, qui fait ce magnifique bleu du ciel. C'est là où les oiseaux volent, dans le ciel. Genèse chapitre 1, la Bible en parle. Et puis en Rois chapitre 8, il y a un autre ciel, parce que là l'auteur dit, « Voici les cieux, et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. » Si nous sommes déjà en plein ciel, c'est-à-dire l'atmosphère terrestre, le ciel de ce ciel-là, on parle de l'espace, on parle de la Voie lactée, on parle des galaxies, on parle de cet univers, on dit l'univers infiniment grand, mais il n'est pas encore infiniment grand puisqu'il continue à pousser. Vous savez que l'univers grandit de plus en plus vite, c'est-à-dire les étoiles s'éloignent les unes des autres et les galaxies s'éloignent les unes des autres à une vitesse croissante, ce qui est stupéfiant. Mais cet énorme espace insondable pour nous que les savants nous décrivent avec leur télescope électronique, c'est les cieux des cieux, donc c'est l'espace. Et puis ensuite, il y a un autre ciel, si on peut dire, je ne sais pas si au point de vue spatial, c'est au-dessus des cieux, mais en tous les cas, c'est un endroit bien particulier que la Bible appelle le troisième ciel. Il y a le premier, l'atmosphère, le deuxième, l'espace, et le troisième ciel, c'est la demeure de Dieu. Et en 2 Corinthiens 12, versets 2 à 4, la Bible dit, Paul dit, il y a quelques années en arrière, je fus ravi au troisième ciel, et j'ai entendu des choses ineffables. C'est-à-dire, il a entendu des conversations, des propos qu'il n'aurait pas pu dire, et d'ailleurs, il n'avait pas la permission de les dire. Et nous trouvons plusieurs images de ce troisième ciel. Par exemple, en Apocalypse chapitre 4, on a une description extrêmement détaillée qu'on trouve aussi dans le prophète Ézéchiel. Juste quelques petits versets qui nous montrent un peu comment c'est. Verset 2, donc de Apocalypse chapitre 4, c'est l'apôtre Jean qui écrit dans une île, Patmos, dans la mer Égée à côté de la Grèce. Il est exilé, mais Dieu lui fait des visions célestes qu'il a données par écrit. Alors il dit, je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, donc grande brillance. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Donc il y a le vert qui prédomine dans cet arc-en-ciel qui entoure ce trône. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs. Et puis verset 6, il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Et vous pouvez continuer à lire, c'est toute la description du trône de Dieu, c'est-à-dire ce troisième ciel. On a une idée très précise. Bon, les mots ne peuvent pas décrire la grandeur et la beauté de cet endroit-là, mais Dieu habite dans un lieu particulier, il est partout, il est littéralement partout, mais le trône de Dieu est dans cette situation magnifique où Dieu domine sur toute chose. Alors, dans le ciel, que s'est-il passé? Dieu, dans le ciel, il a créé ce que la Bible appelle des anges. Le mot ange veut dire messager en grec, mais c'est des anges qui sont des êtres tout à fait particuliers. Ils ne sont pas comme nous les humains. Ils sont dans le ciel, ils ont été créés, semble-t-il, individuellement. C'est-à-dire, Dieu les a créés selon ses désirs, selon son plan, selon ses besoins, pour différentes fonctions. Et ils ont été créés dans la présence de Dieu. Il parle, par exemple, de la création d'un de ses anges les plus magnifiques, qui s'appelait le fils de l'aurore, Lucifer, qui a été écrit avec de la musique pour accompagner la création. Et il était un chérubin protecteur de la présence de Dieu. Donc, il y a des rangs parmi ces anges. Il y a l'archange Michel, dont on entend parler dans Jude. Il y a les séraphins, qui sont des anges qui proclament la sainteté de Dieu et qui volent autour du trône de Dieu. Il y a ces fameux chérubins qui sont gardiens de la présence de Dieu. Et puis, Dieu, nous apprenons en Job chapitre 1, Dieu reçoit, semble-t-il, sans difficulté, des anges qui viennent lui rendre des comptes, qui l'envoient pour différentes missions. Et il y a même Lucifer, cet ange qui s'est révélé contre Dieu, qui arrive quand même dans la présence de Dieu et avec lequel Dieu parle. Alors, Lucifer n'aime pas Dieu, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais il reconnaît quand même que Dieu est le Créateur. Il ne peut pas ne pas le reconnaître et il vient lui parler. Et Dieu lui parle. Et justement, la conversation se portait sur ce fameux Job. As-tu vu mon serviteur Job? Et on voit comment Satan essaie de provoquer la chute de Job, l'amertume de Job. Il essaie de prouver que Dieu en paie Job en quelque sorte, de récompense Job pour être loyal envers lui. Il essaie de contester que les gens puissent aimer Dieu et que Dieu les aime, parce qu'il est tordu par son péché, mais Satan a accès ou avait accès dans la présence de Dieu et pouvait parler avec lui, mais il n'a pas sa place définitive au ciel. Et donc, c'est le trône de Dieu, et en Apocalypse chapitre 21, il y a aussi une cité qui est créée. Nous voyons dans chapitre 21 de l'Apocalypse, « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et moi, Jean, je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du ciel une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. » Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux et sera leur Dieu. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur car les premières choses ont disparu. C'est merveilleux d'imaginer ce Dieu qui a tout créé, qui habite sur ce trône entouré de cet arc-en-ciel, ce Dieu tout-puissant, créateur, plein d'amour, veuille vivre avec nous. Et non seulement veut-il vivre avec nous, il a préparé lui-même le lieu où on va vivre avec lui. Et il n'y aura plus de douleur, plus de cris, plus de mort, plus de nuit. Et nous avons la description, bien sûr, dans la suite du chapitre, de toute la description physique, matérielle. On peut parfaitement représenter, même si on ne pourrait pas imaginer la splendeur de ce lieu, mais on peut parfaitement représenter cette ville, sa magnificence. On a la description de ses fondations, de ses murailles, de ses portes, de ses rues, de sa luminosité, de ses dimensions. La Nouvelle Jérusalem, le tabernacle ou la demeure de Dieu avec les hommes. Donc nous apprenons que nous allons pouvoir vivre avec Dieu. Si on s'en tient uniquement, littéralement, à la mesure de cette ville, ça représente un cube qui fait 2000 km de côté. On peut en mettre du monde dans cette une si grande ville. Le ciel, c'est ça le ciel. Et quand on pose la question aux gens où qu'on les trouve, est-ce que vous êtes certain d'aller au ciel? Savez-vous que vous pouvez aller au ciel? Si vous deviez mourir ce soir, où passeriez-vous l'éternité? Si je pouvais vous montrer à partir de la Bible comment aller au ciel, est-ce que ça vous intéresserait d'en apprendre? C'est de ce ciel-là que nous parlons, de la présence même de Dieu. Alors ça c'est le ciel, qu'est-ce que c'est que le ciel? Mais alors pourquoi, pour répondre à la question, pourquoi le ciel et l'enfer? Eh bien, tout être a une demeure, tout le monde vit quelque part. Et le ciel, c'est la demeure de Dieu. Il n'est pas un être terrestre, il n'est pas limité à la planète. Il vit dans l'espace, il vit partout. Écoutez ce qu'a dit Ésaïe, chapitre 57. « Car ainsi parle le Très-Haut. » On l'appelle le Très-Haut, parce qu'il n'est pas en bas sur la terre, il est au-dessus. « Le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés. » Voyez, « J'habite dans les lieux élevés, dans le troisième ciel, et dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié. » Il a cette capacité de ne jamais quitter sa demeure élevée et en même temps descendre et être juste à côté de la personne qui est triste à cause de son péché, qui se repent et qui désire le pardon de Dieu. Il est là-haut sans jamais quitter sa majesté et immédiatement en bas à côté de chacun d'entre nous. Il a donc cette demeure, c'est le ciel. Mais il veut partager sa demeure avec ses créatures. Et voilà la réponse à la première question. Pourquoi y a-t-il un ciel? Parce que Dieu tient à partager son habitation avec nous. Alors, il y a des gens qui pensent, bah oui, Dieu est un peu comme tout le monde, hein, vous savez, il a besoin de compagnie aussi. C'est pas marrant d'être Dieu tout seul dans son ciel, avec personne à qui parler. Détrompons-nous. Hein. Déjà, Dieu a à qui parler. La Bible est très claire qu'avant même que l'univers ne soit créé, Dieu était déjà là depuis l'éternité. Et Dieu tient et tenait conseil avec lui-même. Dans l'hébreu, il y a cette expression qu'on appelle une unité plurielle, c'est-à-dire un seul Dieu, mais en trois personnes. Codépendantes, coéternelles, ayant toutes les mêmes caractéristiques, ayant tous les mêmes pouvoirs, Père, Fils, Esprit Saint. Quelquefois, nos amis musulmans disent, et Mahomet leur a dit de dire, Dieu n'a pas de femme et Dieu n'a pas de fils. Et ils n'ont pas tort dans un sens. Mais le Fils de Dieu est aussi éternel que le Père. Amen. Donc, il n'y a pas eu un moment où le Père a dit, ah si j'avais un fils et qu'il a créé. Les témoins de Jéhovah pensent que Jésus-Christ est la première créature que le Père a créé. Mais la Bible est très claire, le Fils est éternel comme le Père. Amen. Donc, ils tenaient le conseil ensemble. Dieu a assez de merveilles dans sa nature pour ne jamais s'ennuyer, même s'il était tout seul. Mais l'amour de Dieu désire se manifester envers d'autres gens que lui-même. Et c'est par compassion, c'est par cet amour divin incommensurable qu'il a créé et les anges et les hommes pour partager sa présence et ses richesses avec nous. Dans l'Apocalypse 4, quand on lit toute la description de ce trône de Dieu, il y a de l'activité. Il y a des anges, des vieillards, des quatre êtres vivants qui sont en train d'adorer, de s'émerveiller devant le Dieu qui est au milieu d'eux. Vous avez sans doute entendu des gens dire comme ça, « Oh, le ciel, ça ne m'intéresse pas des masses, vous savez, être assis sur un nuage à jouer avec une harpe pendant l'éternité, ça va être ennuyeux. » En fait, quand on sera au ciel, on sera sans doute vraiment très différent de ce que nous sommes aujourd'hui. Et nous allons connaître Dieu, peut-être commencer à le sonder dans toutes les profondeurs, toute la profondeur des merveilles de sa personne et de son caractère. Et pour l'éternité, nous allons nous émerveiller en pénétrant toujours plus loin dans qui est le Dieu qui nous a accueillis dans sa demeure. Et cette adoration ne sera pas une adoration béate, genre « je suis en transe ». Non, ça va être une adoration active, basé sur ce que nous comprenons de Dieu. On parle que l'intellect, ça marche sur la terre, mais ça n'a rien à voir avec l'intellect qui va marcher aussi à notre raisonnement, nos émotions, notre âme, notre cœur. Tout sera pris dans cette adoration dont nous ne nous lasserons jamais. Ce qui fait que l'activité la plus sublime, la plus élevée, la plus intelligente, la plus puissante, l'activité à laquelle nous pouvons nous livrer sur la terre, c'est déjà commencer à adorer Dieu. J'en ai parlé à l'église du Sal l'autre jour, il y a quelques mois, mais j'étais dans une église aux États-Unis et le pasteur nous a pris à part, on était des missionnaires, et il nous a lancé un défi de passer quelques minutes chaque jour à sonder une caractéristique de Dieu. Il dit pendant 5 minutes, méditez, par exemple, sur la miséricorde de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? D'essayer de sonder ça. Et le lendemain, on peut, une autre caractéristique. Il y a des centaines de caractéristiques de Dieu, de sa personne, de ses attributs. Juste le fait de l'adorer et de lui parler d'un de ses attributs, d'une de ses caractéristiques. C'est une expérience extrêmement puissante, extrêmement édifiante. Ça, c'est l'adoration. L'adoration, c'est contempler, réfléchir, sonder et parler à Dieu d'une de ses caractéristiques, d'un des aspects de son caractère. C'est ça, l'adoration. Et c'est à ça que nous serons occupés au ciel. Et c'est cette adoration qui va motiver notre louange, notre reconnaissance. Donc les anges, ils y sont déjà et ils ne s'ennuient pas. Ils sont dans l'adoration de leur Dieu. Et donc Dieu veut nous associer aux anges. Il veut qu'on les rejoigne dans les mêmes activités. Et Jésus l'a dit lui-même en Jean 14. Je vais vous préparer une place. Et quand je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Ça ne peut pas être plus clair que ça. Je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. On ne peut pas douter que Jésus-Christ soit au ciel. Alors c'est lui qui dit, moi je serai au ciel, vous serez avec moi. C'est moi qui prépare le lieu, je viens vous chercher et vous passerez l'éternité avec moi. Quelle merveilleuse perspective! Mais en Éphésiens chapitre 1, j'aimerais vous montrer quelque chose. Pourquoi le paradis? Pourquoi le paradis? Dans les versets 3, 4 et 5. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Surtout cette dernière phrase, à la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordée en son bien-aimé. Ça répond à la question, pourquoi le ciel et pourquoi nous irons au ciel. Pourquoi nous irons au ciel? Quand Dieu a créé les anges, il les a créés et les anges, dès leur création, étaient devant Dieu. Ils le voyaient. Ils devaient savoir, dès leur création, c'est lui qui m'a créé. C'est lui le Dieu créateur. Moi, je suis une créature, lui est le créateur. Même Lucifer le savait. On savait qui était le créateur. On savait qui était Dieu. Ils étaient en face de lui. Ils le voyaient, ils le connaissaient. Quand Lucifer a décidé que lui aussi voulait être adoré, je serai semblable au Très-Haut, je veux monter moi aussi dans les extrémités du septentrion, je veux être comme Dieu, pour les rivaliser avec Dieu. L'orgueil, le désir d'être adoré, il a fait ça les yeux pleinement ouverts. Il n'a pas été trompé, il n'a pas été séduit, il a fait ça en connaissance de cause. Il s'est rébellé contre le Dieu qu'il voyait en face. Les anges qui l'ont suivi l'ont fait en pleine intelligence. C'est pour cela qu'ils sont irrémédiablement perdus. Ils ne reviendront pas à l'arrière sur leur décision. Ils n'ont même pas le désir de se repentir. Parce qu'ils sont entrés en pleine connaissance de cause dans leur rébellion. Leur rébellion est irrévocable. Jamais Satan ne voudra dire « je me suis trompé ». Il s'est trompé. Mais jamais il ne va l'avouer parce qu'il voue une haine viscérale à Dieu. C'est ça le sens du péché. C'est pour ça que le péché est tellement sordide, tellement horrible. Parce que devant le Dieu qui n'a fait que du bien, qui nous a créés, par la volonté duquel nous existons, on lève le poing, on le défie et on veut être à sa place, on veut même le dominer, mais quelle horreur! Il n'en est pas ainsi des humains. Les humains n'ont pas connu Dieu de la même manière que les anges ont pu voir Dieu. Satan a séduit, c'est vrai, l'homme et la femme ont fait un choix, comme les anges ont fait un choix. C'est intéressant que Dieu, tous les êtres moraux qu'il a créés, il leur a laissé un libre arbitre. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est qu'il leur laisse exercer leur libre arbitre pour la question éternelle. Il ne dit pas, voilà le choix. Choisis ce que tu veux. Je te recommande de choisir la vie. Mais voilà, j'ai placé devant toi la vie et la mort. Quelqu'un dit, je veux choisir la mort. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Recommence. Je veux choisir la mort. Mauvaise réponse. Alors, je choisis la vie. Ah ben, bonne réponse. On n'est pas des robots. Amen. C'est la dignité de l'être humain que de faire des choix, le choix qui va affecter son éternité. Et donc, les anges ont fait un choix, les anges déchus ont fait ce choix-là, en connaissance de cause, mais l'homme non. L'homme non. Il n'a pas, il est né dans le péché. Nous sommes nés avec une nature pécheresse. Elle est en nous. Dès notre conception, on a une rébellion dans notre cœur. Alors, heureusement qu'on n'est pas toujours en pleine rébellion, mais elle n'est jamais très loin, cette rébellion. Et même nous qui sommes sauvés et qui, on dit, ouais, mais vraiment, d'ailleurs, quand on accepte le Seigneur, on voit un tel changement, on voit. Et puis, on se rend compte qu'on a quand même la nature pécheresse qui est encore en nous. Et puis, ça nous trouble. Et comment ça se fait? Comment je puis tomber alors que je suis sauvé? Oui, mais justement, le propre du chrétien, sauvé par grâce, c'est de continuer à exercer son libre arbitre. De dire, je choisis de marcher avec Dieu aujourd'hui. Je choisis de lui obéir aujourd'hui. Et le fait que nous ne choisissons pas tous les jours d'obéir à Dieu, explique que nous péchons. Et quand nous choisissons de lui obéir, eh bien, nous passons à côté du péché, nous disons non à ses convoitises. Je suis tellement reconnaissant que Dieu dit, n'obéissez pas à ses convoitises. Vous trouverez des chrétiens pour vous dire, un vrai chrétien, ça n'a pas de convoitises. Mais c'est faux. Le chrétien, il a des convoitises comme des inconvertis, parce qu'on est des humains. Mais en Christ, on a la capacité, avec son esprit, de dire non. Ça m'intéresse, mais non, ça ne m'intéresse pas. Je me regarde comme mort au péché, insensible au péché, vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Et il n'y a pas d'autre alternative. Il n'y a pas de solution magique. C'est je connais mon Dieu, je sais ce qu'il a fait pour moi, je sais comment il m'a sauvé, je veux marcher avec lui, je décide de marcher avec lui. Et là, nous reconnaissons la victoire du Seigneur sur nous, sur notre vie. Quand Jésus-Christ dit « porter sa croix tous les jours et le suivre », c'est ça. Porter la croix, c'est quand quelqu'un portait une croix il y a 2000 ans, il faisait un aller simple. Vous pouvez dire « je ne reviendrai pas par où je suis passé, je vais mourir au bout de mon chemin sur cette croix ». Et porter sa croix, c'est « je renonce à mes soi-disant droits, je renonce à mes goûts, je renonce à mes opinions, j'ai décidé ». De laisser les opinions de Jésus être les miennes, de laisser les commandements de Dieu être les miens, de laisser les avis de Dieu être les miens. Et parfois les gens vous disent, oui, ben vous avez toujours votre Bible. Chaque fois que je vous pose une question, vous fourrez votre Bible sous le nez pour dire, regarde ce qu'est la Bible. Et vous, n'avez pas une opinion? Si? Alors dites-moi. Mais c'est là. Mon opinion, c'est celle de Dieu. J'ai choisi. C'est pas qu'on était la vie du cerveau, on a choisi. Parce qu'on a compris que c'est la vérité. Et cette vérité, eh bien, est ma vérité. Ma vérité, c'est la vérité de Dieu. Et donc, l'homme a péché. Nous sommes nés avec cette nature pécheresse. Nous sommes nés sans connaître Dieu. On ne connaît pas Dieu comme les anges le connaissaient. Et Dieu a décidé d'exercer envers nous, les êtres humains, sa grâce, sa miséricorde, son amour, sa patience, envers des gens qui, évidemment, ne la méritent pas. Et pour les êtres humains, il a conçu le plan de rédemption. La rédemption que nous connaissons, la rédemption de nos péchés, le pardon de nos péchés, à la croix, il a payé pour nous. Alors, quand les anges ont vu Lucifer être jeté dehors avec la cour des anges qu'il a suivi dans sa révolte, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu la sainteté de Dieu. Dieu ne supporte pas le péché. Là, ils ont appris une leçon. Jusque-là, il n'y avait pas de péché. Ils ne pouvaient pas voir la sainteté de Dieu. La sainteté de Dieu a été vue pleinement quand Dieu a dit, vous ne pouvez pas rester dans ma présence, je ne supporte pas le péché, ma sainteté est dévorante. Dehors! Et Satan a été précipité loin de la présence de Dieu. Là, les anges ont vu, saint, 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 et l'éternel, le Dieu des armées, la terre est pleine de sa gloire. Il est saint. Mais Dieu n'avait pas que la sainteté dans son caractère. Il avait aussi la miséricorde, la compassion. Il avait la grâce. Il avait la capacité de pardonner. Il avait un amour qu'il voulait montrer aux anges aussi. Il fallait que les anges voient tous les aspects de son caractère. Alors en Christ, et vis-à-vis de nous les humains, il peut montrer toutes ces choses-là. C'est pour ça qu'en Éphésiens 1, notre destinée, c'est d'être au ciel et de servir de vitrine aux anges. Et à tous ceux qui sont dans le ciel, qui vont pouvoir nous contempler, nous les humains rachetés, et dire, regardez ces gens-là, on les a vus sur la terre. Ce n'étaient pas des fameux, c'était des pécheurs, c'était des condamnés, c'était des gens qui roulaient dans leur péché, qui se vautraient dans leur péché, qui vivaient comme si Dieu n'existait pas, qui étaient rebelles contre Dieu. Comment se fait-il qu'ils sont ici à louer Dieu avec nous? Ah! Nous t'adorons. Tu as montré ton amour, tu as montré ta miséricorde, tu as montré ta compassion, tu as montré ta patience. Et là, ils vont voir toute la palette des caractéristiques de Dieu présentées par nous, par notre simple présence dans le ciel. C'est pour ça qu'il y a aussi un ciel pour nous. C'est aussi pour nous notre joie. Hein? On dit, ah, mais Dieu m'aime, donc il veut m'offrir le ciel. Et c'est très bien. J'aimerais bien marcher sur les rues pavées d'or. Mais c'est toujours bon à prendre. Mais ce n'est pas la vraie raison pour laquelle nous sommes au ciel. Nous serons au ciel pour la gloire de Dieu. C'est le caractère de Dieu qui va se voir à travers notre parcours, à travers le salut que Jésus-Christ apporte. Et bien sûr, Jésus-Christ va recevoir la louange, l'adoration, parce que c'est lui qui a effectué cette transaction, cette rédemption pour nous. Voilà pourquoi il y a un ciel. Alors, il y a aussi un autre endroit. La Bible parle, l'enfer. Il y a 162 textes qui parlent de l'enfer sous une forme ou sous une autre dans la Bible. 70 de ces textes, Jésus les a prononcés lui-même. Jésus a parlé même plus souvent de l'enfer que du ciel. Quand les gens disent, oh Jésus, oui, oui, le prophète de Nazareth qui a dit, aimez-vous les uns les autres, je connais tout ça par cœur. Il a dit, mais il a dit aussi beaucoup de choses que les gens préfèrent ne pas entendre. Mais regardez en 2 Thessaloniciens chapitre 1, la Bible dit en verset 6, « Il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru. » Le mot ici, une ruine éternelle. Ça, peut-être mieux que n'importe quel autre terme, est la définition de l'enfer. Vous êtes sans doute allé déjà dans une déchetterie, non? Dans une décharge. C'est un lieu triste. Quand vous allez dans une décharge ou dans une déchetterie, vous voyez les bennes sont remplies de choses que des gens ont achetées quelque temps auparavant. Ils ont parfois payé le prix fort. En beaux meubles, des étagères, toutes sortes d'affaires. Vous voyez le putrescible que l'on met dans nos bacs. C'était autrefois sur les rayons d'un supermarché. Des emballages magnifiques, pleins de couleurs, bien imprimés. Mais une fois qu'on a vidé ces contenants de leur liquide ou quoi, on les jette, ça ne sert plus à rien. Ces choses-là sont ruinées. C'est la ruine. Et si une voiture sort d'une usine et coûte 30 000 euros, une fois qu'elle est accidentée et méconnaissable, où est-ce qu'on la met? À la déchetterie. Alors on dit, est-ce que le fabricant de la voiture a voulu que cette voiture finisse dans cette casse? Non. Quel était le but du fabricant de la voiture? Ah, mais il voulait faire une belle voiture qui serve les gens pendant très longtemps. Qu'est-ce qui est arrivé? Un accident. Quel est l'état de cette voiture? C'est une épave. Elle est ruinée. Une ruine éternelle. Et la pensée est terrible. C'est des gens qui ont été créés pour la gloire, mais qui n'ont pas reçu Christ comme sauveur et qui vont subir la ruine éternelle. Pour l'éternité, ils ne vont pas servir à ce pourquoi ils ont été créés. Dieu ne les a pas créés pour les envoyer en enfer. Dieu les a créés pour la communion avec lui. Mais ne recevant pas le salut et étant chargés de leurs péchés, ils ne peuvent pas aller dans cette présence de Dieu. Donc tout ce qui leur reste, c'est un lieu de ruine. Un lieu de ruine. C'est la pensée d'une tristesse absolue, être une épave. Inutilisable. En dehors du Christ. Le terme, la géhenne, d'où nous tirons un peu l'idée de l'enfer, la géhenne, tout le monde connaît ça en France, le mot géhenne, parfois les gens en parlent. C'était une vallée, la vallée de Hinnom, juste à côté de la ville de Jérusalem, c'était la décharge municipale de cette ville. Et dans cette décharge, ceux qui sont plus âgés maintenant comme moi, on se souvient, toutes les villes avaient une décharge municipale, Et c'est pas comme aujourd'hui avec des usines et puis on rentre ça et puis voilà. Non, c'était toujours, il y avait un feu qui brûlait dans les charges municipales. Et on y allait, il y avait quelqu'un toujours avec une fourche qui jetait des cartons et tout ça. Et on brûlait tout ce qui pouvait être brûlé. Et on, je me souviens avec mon père, je descendais à la décharge. C'était un lieu immonde. Il y avait toujours un feu qui brûlait. Et c'était pareil dans la ville de Jérusalem. En dehors, il y avait cette vallée profonde. Et puis il y avait toujours un feu et on y jetait les déchets. En lieu de ruines, en lieu de feu qui ne s'éteignait jamais, ni nuit, ni jour, et avec une fumée. Et alors, dans cette vallée de Hinnom, les Juifs, pour que ça brûle mieux, eh bien, ils mettaient du soufre. Donc, c'était du feu et du soufre pour augmenter la flamme et pour mieux brûler les choses qu'on jetait dans cette vallée. Et donc, c'est devenu un symbole visible, palpable, une image de ce qu'est l'enfer. Des choses qui ne servent plus à ce pourquoi elles ont été créées, qui finissent ensemble dans un lieu de feu dont la température est augmentée par l'adjonction de soufre. En endroit de feu et de soufre. Dans Matthieu 25, Dieu parle. Mais chaque fois que Jésus parle de cet endroit-là, il ne dit jamais que une fois que tout est brûlé, comme dans une décharge, le feu va s'éteindre et que ça va être fini. Mais en Matthieu 25, ensuite il dira, verset 41, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Dans le feu éternel. Donc il n'y a pas de fin à ce feu. Il n'y a pas de fin à cette souffrance. Il y a plus de 100 ans de cela, un jeune homme américain qui s'appelait Charles Russell était passionné par les choses religieuses. Il a fréquenté toutes les églises protestantes de sa ville. Et à l'époque, contrairement aujourd'hui, dans les églises évangéliques, on prêchait souvent sur le sujet de l'enfer. Alors, au bout de quelques semaines, il entendait dans toutes ces églises un message sur l'enfer. Et alors ça le hérissait, ça le gênait. Il a dit, je ne comprends pas, Dieu, un Dieu d'amour ne peut pas avoir un enfer où il jette les gens, c'est pas possible. Si jamais je crée un mouvement religieux, l'enfer n'existera pas dans nos doctrines. Si je crée un groupe, ça n'existe pas. L'enfer n'existera pas. Je n'y crois pas, je ne veux pas y croire et on ne va pas l'enseigner. Et savez-vous ce qu'il a fondé comme groupe? Les étudiants de la Bible, mieux connus aujourd'hui comme les témoins de Jéhovah. Et effectivement, si vous parlez en témoin de Jéhovah, il vous dira, l'enfer n'existe pas. Après la mort, tout le monde ressuscite pour une ultime chance. Voulez-vous placer votre confiance en Jéhovah? Non? Bon. Comme on fait avec l'ordinateur, delete, supprimer, c'est-à-dire vous disparaissez, votre âme disparaît, vous n'êtes plus rien, vous ne continuez pas à vivre, vous êtes fini. Je ne sais pas comment Dieu peut faire ça, mais selon eux, Dieu, et donc la personne n'existe plus, c'est de l'air, il n'y a plus rien. Le problème, c'est que nous avons été créés à l'image de Dieu. Nous sommes immortels. Et Dieu ne peut pas, vis-à-vis de lui-même, être loyal vis-à-vis de lui-même, nous créer à son image, nous donner son souffle immortel et dire tout compte fait, je préfère vous supprimer. Ou j'ai décidé de vous supprimer. S'il avait décidé, il nous l'aurait dit au départ. Mais il nous a créés avec son souffle. Nous ne pouvons pas ne pas être. On sera obligé d'être. Pour toujours, soit au ciel, soit en enfer. Et donc, le feu est éternel, qui n'a pas de fin, et les gens qui y seront aussi. Donc, on n'est pas anéanti. Dans Luc 16, on a peut-être la description la plus claire de ce lieu. Et donc, c'est l'homme riche et Lazare que beaucoup de gens connaissent. Ce n'est pas une parabole, contrairement à ce que certains pensent, c'est un récit. Jésus n'a pas dit le royaume des cieux est semblable à un homme qui s'appelait Lazare et un riche, comme il a fait pour beaucoup d'autres choses. Il commence un récit. Il y avait cet homme et cet autre homme, ils sont morts, et voilà comment ils finissent. Verset 22, le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Quand les gens lisent ça, ils disent, « Ah non, ce n'est pas possible. Vous m'avez bien dit que le mort a été enseveli. » Oui. Donc, sa langue est dans la tombe avec le restant de son corps. Oui. Alors comment se fait-il qu'ils disent à Lazare, « Rafraîchis-moi la langue, puisque son corps n'est pas dans ce lieu. » Oui, mais la Bible nous fait comprendre que l'âme, et c'est écrit noir sur blanc, l'âme, c'est la personne. Et si la Bible dit que cet homme, son âme, peut ressentir les douleurs physiques, c'est qu'il peut ressentir les douleurs physiques. Et même, sans aller si loin, si vous avez rencontré quelqu'un qui a eu le malheur d'être amputé d'un membre, ou qui a perdu un doigt, ou comme ça, tout le monde vous dira, « Oui, j'ai plus de jambe gauche à partir du genou, mais parfois mon pied me gratte. » Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Mais oui, c'est « Je n'ai plus de pied, mais... » J'ai envie de me gratter sous le pied que je n'ai plus. Comment ça se fait? C'est une question de nerfs. Si Dieu a fait ça, ça se commande à partir du cerveau qui est entier. Il n'est pas étonnant que l'âme, qui est la personne elle-même, le vrai nous, puisse ressentir des effets physiques alors qu'on n'a plus de corps. Je ne peux pas l'expliquer, mais la Bible est très claire à ce sujet. C'est un endroit de tourment conscient, avec un aspect physique que la personne dit « Je souffre dans cette flamme. » Et je voudrais qu'on me rafraîchisse la langue. C'est ce qu'il dit. Et bien sûr, Abraham ne peut pas envoyer Lazare pour faire cela. Il y a des souvenirs, il y a des désirs inassouvis. Cet homme, dans ce lieu de tourment, il n'est pas dépourvu de mémoire. Il se souvient de sa vie sur terre. Il se souvient de sa famille. Il parle de ses 5 frères qui sont encore sur la terre. On voit qu'il n'a rien perdu de ses capacités. Il n'est pas en train de dormir. Il n'est pas en suqué. Il est pleinement conscient de là où il est. Il dit, je suis après la mort et mes 5 frères sont avant la mort et je ne veux pas qu'ils finissent ici avec moi, et si Lazare ressuscitait, ça les convaincrait et ils se convertiraient, et je ne veux pas qu'ils me rejoignent ici. Il était un merveilleux missionnaire, cet homme. Il voulait tellement que ses frères se convertissent pour ne pas le rejoindre en enfer. Ce récit donné par Jésus-Christ déjà est énorme par rapport à l'enfer. C'est un endroit de feu. La Bible dit qu'il y a des pleurs et des grincements de dents. C'est horrible d'entendre des gens qui grincent des dents. Alors, parfois, quand on est âgé, certaines personnes grincent des dents dans leur sommeil. Vous savez, il y en a qui parlent de ça, des gens qui disent « Oh là là, je ne supporte pas mon mari ou ma femme ou mon enfant, il grince des dents quand il dort. » Mais c'est terrible à entendre. Mais des gens qui grincent des dents parce qu'ils souffrent tellement, c'est terrible. C'est une intensité de souffrance. On va brûler la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Donc la Bible est très claire, l'enfer est un endroit de feu. C'est un lieu d'obscurité. Et là aussi, les gens dans la rue, et qu'est-ce que j'ai entendu? Des centaines de personnes dire ça, « Oh, mais l'enfer, ça ne me fait pas peur, vous savez, les copains que j'ai, je ne crois pas qu'ils vont finir au ciel comme je les connais. Eh bien, on sera tous là autour du feu. » Et il y a le diable derrière avec sa fourche, on va boire un coup et puis on va passer le temps. Et si c'est un hiver, au moins il ne fera pas froid comme il fait aujourd'hui. Est-ce que vous avez jamais entendu des gens parler comme ça? Moi, si. Parlez avec des gens dans la rue, vous en trouverez. Mais ce n'est pas du tout un lieu convivial, l'enfer. C'est un lieu de souffrance. C'est un lieu d'isolation. Nous lisons en Jude, « Dieu a réservé pour le jugement du grand jour, enchaîné éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité. Ce sont des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. » Je n'ai pas les moyens de le prouver, mais on pourrait arriver à ce résultat que le Seigneur donne très clairement. Si on prenait une âme, une personne, et la pensée est terrible, et on l'a jetée avec une force infinie dans l'espace. L'espace n'a pas de fond. Il va errer pour l'éternité. Seul. On nous dit que oui, d'ici les galaxies, on les voit, ils nous éclairent. Mais quand on est dans l'espace, il y a très peu d'air, donc il y a pas, très peu de réflexion, ce qui fait que tout est noir quand même. Être un astre errant, c'est bien le mot, jeté dans l'espace, dans la solitude, mais il y a assez d'air pour faire une friction, pour faire une sensation de terrible chaleur. Tout en étant seul, tout en étant dans le noir, et tout en ayant l'impression de tomber dans un trou sans fond. Je trouve ça plus effrayant que d'être sur un parterre avec des flammes oranges que l'on voit autour de soi et avec plusieurs autres. C'est terrible. Et que font ces gens? Pourquoi sont-ils là? Ils sont là parce que Dieu les a créés pour sa gloire, mais ils n'ont pas voulu partager cette gloire. Et alors, ils vont être seuls dans l'obscurité, comme des astres errants pour l'éternité. Oui, ça explique ce qu'est l'enfer, mais alors pourquoi l'enfer? Première chose, et c'est très court, d'abord la Bible dit que l'enfer n'a pas été créé à l'origine pour les êtres humains. Jésus l'a dit plusieurs fois, l'enfer a été créé pour le diable et ses anges. C'est-à-dire que on peut comprendre que Dieu ayant créé ces êtres, ces anges, magnifiques, puissants, intelligents, doués, forts, il les a créés pour sa gloire. Ces anges, au lieu de l'adorer, se retournent contre lui et veulent même prendre sa place. Dieu ne peut pas les garder dans sa présence parce que sa sainteté n'est pas une sainteté simplement neutre. C'est pas « je suis saint, je ne mêle pas du péché ». La sainteté de Dieu, c'est un peu comme une réaction chimique. Vous savez, dans les laboratoires de chimie, les chimistes nous montrent, voilà ces deux produits, regardez, ils sont dans deux fioles, sont non inoffensifs. Vous les mettez ensemble, même deux, trois gouttes de l'un et l'autre, ça fait pfff. Ça fait une explosion, ça fait... Voilà, c'est des liquides qui ne se supportent absolument pas, ça fait une explosion. La Bible dit que notre Dieu est un feu dévorant. La sainteté de Dieu est une force active. En présence du péché, Dieu ne peut pas rester impassible. Devant n'importe quel péché, la sainteté de Dieu dévore. Il y a une cinquantaine d'années, un homme, un prédicateur de l'Évangile aux États-Unis, avait donné une conférence, alors des centaines de gens sont venus parce que le titre les intéressait, l'endroit où il fait plus chaud que l'enfer. Alors les gens, juste par curiosité, c'est quoi ça? Un endroit qui fait plus chaud que l'enfer. On ne peut pas imaginer pire que l'enfer. Ils sont arrivés et il leur a montré par A plus B, par la parole de Dieu, la sainteté de Dieu en feu dévorant. Alors que l'enfer, c'est un feu qui ne dévore pas. Donc, il est moins chaud, c'est moins pénible, même si c'est terrible, c'est moins pénible que d'essayer de rester dans la présence de Dieu avec sa sainteté si on n'est pas couvert par le sang de Jésus-Christ. Il a montré que Dieu est lumière et il n'y a point en lui de ténèbres. Et à l'époque, on avait découvert, il n'y avait pas si longtemps auparavant, les lasers. Et aujourd'hui, on dit, mais est-ce que le laser, c'est de la lumière, c'est de l'énergie, c'est de la matière? C'est un peu entre les deux, la lumière. C'est un peu les deux. Mais quand vous le concentrez à ce point, donc une lumière sans ténèbres, c'est plus terrible, c'est plus terrifiant que l'obscurité avec la souffrance. L'enfer est un endroit où les gens peuvent vivre. Ils ne pourraient pas vivre dans la présence de Dieu. Ce serait plus terrible encore que de vivre dans la présence de Dieu. Dieu est juste. S'il laissait passer le péché, il ne serait plus juste. S'il n'était plus juste, il ne pourrait plus être. Il serait en contradiction avec lui-même. Or, il est absolu. Il est absolu et infini dans tout. Donc, il ne peut pas pécher. Il ne peut pas ne pas être ce qu'il est. Il est ce qu'il est depuis l'éternité. Il est sainteté absolue depuis l'éternité. Dans tout ce qu'il est, il est l'absolu. Ce qui fait qu'il ne peut pas cautionner le mal, il ne pourra jamais le cautionner. Il ne pourra jamais s'y habituer. Et c'est pour ça qu'il ne pourra jamais accepter un être humain dans sa présence qui n'est pas sauvé par Jésus-Christ. Et c'est pour cela, parce qu'il n'y a que deux endroits dans l'univers aussi grand, l'univers, l'endroit où se trouve Dieu et l'endroit où Dieu ne se trouve pas. Peut-être la chose la plus terrible dans l'enfer, c'est que Dieu ne s'y trouve pas. Il n'est pas là. Alors qu'il est présent dans ce monde, il agit dans ce monde avec tout le mal qu'on y voit, Dieu est présent, il agit, il fait grâce. Il nous distribue des bénédictions sans nombre à tous les êtres humains de la planète. Il a une grâce commune qu'il répand sur les êtres humains. Mais imaginez être dans un endroit où Dieu n'est pas. C'est la réalité et la raison de l'enfer. C'est parce qu'il faut bien un endroit où les gens puissent ne pas être où Dieu se trouve. Parce qu'ils ont voulu, ils n'ont pas voulu de lui et de sa présence. Donc, pourquoi l'enfer? À cause de la sainteté de Dieu et l'horreur du péché. Pourquoi le ciel? Pour que Dieu puisse manifester sa grâce, sa miséricorde et sa gloire à la louange, à sa louange, à son adoration. Et nous sommes les bénéficiaires de ce salut.